Philippe Manzer.
La bourse suisse encaisse le coup des droits de douane ce matin. Fermé vendredi, jour de fête nationale, c'est à la réouverture ce matin que le choc s'est répercuté sur le marché. Le SMI, l'indice des principales valeurs helvétiques, a commencé sa séance en baisse de 2%. Mais à la mi-journée, le SMI s'est un peu repris, Sylvie Belzer.
Oui, ouverture en rouge foncé ce matin pour la bourse suisse. Tous les titres du SMI étaient en baisse. Parmi les valeurs les plus chahutées, les titres pharma, bien sûr, particulièrement Roche et Novartis, mais également les valeurs horlogères et celles du luxe, des actions qui ont donc dévissé sur les premiers échanges. C'est bien sûr à l'ouverture que la répercussion des tarifs douaniers de 39% a été la plus forte, puisque la bourse suisse était fermée vendredi, vous l'avez dit. Mais depuis, les marchés ont un peu repris leurs esprits. Le SMI affiche désormais un recul, somme toute, assez modéré compte tenu de la situation de 0,6%. Certaines actions ont même retrouvé le chemin de la hausse. Swisscom, bien sûr, qui n'a rien à voir avec le marché américain, mais aussi Nestlé, l'assureur Zurich ou le parfumeur Givaudan.
Merci Sylvie. Et face à ce risque de crise économique, il faut le dire, les regards sont tournés vers Berne. Le Conseil fédéral s'est réuni ce matin en urgence et pour l'heure, aucune information ne filtre. Et pourtant, est-il que cher, le gouvernement suisse doit agir rapidement.
Et oui Philippe, jeudi à 6h01 du matin, heure suisse, ces taxes douanières de 39% fixées par Donald Trump entreront en vigueur. Ce qu'on sait déjà, c'est que le gouvernement suisse ne compte pas en rester à cela et qu'il veut relancer des négociations. Le chef du département de l'économie, Guy Parmelin, l'a dit à la RTS. Alors à 11h ce matin, les 7 sages ont débuté leur réunion extraordinaire par visioconférence. On est déjà 3 jours après le choc, le temps certainement pour diplomates et fonctionnaires d'analyser la déconvenue et surtout de préparer des pistes d'action pour le gouvernement. Les domaines de concession possibles sont connus, promettre aux États-Unis de leur acheter davantage de choses, du matériel de guerre, du gaz ou encore de la viande de bœuf, chaque solution ayant ses obstacles et ses limites. Le Conseil fédéral pourrait aussi sortir d'autres idées plus originales, peu probable en revanche qu'il se lance dans la voie de la rétorsion. Le gouvernement devrait communiquer cet après-midi, mais sans doute seulement par écrit, sans trop de détails, pour garder ses cartes en main pour la négociation.
Merci Étienne, vous étiez en direct de Berne. Le Kremlin appelle Washington à faire preuve d'une grande prudence dans ses menaces nucléaires. Vendredi, Donald Trump a déployé 2 sous-marins nucléaires et le président américain réagit ainsi après des commentaires de l'ex-président russe Dmitri Medvedev qu'il dit avoir peu apprécié. Mercredi ou jeudi, justement, l'émissaire américain Steve Witkoff se rendra en Russie. Le déplacement a été confirmé cette nuit par Donald Trump. Le président américain a fixé un ultimatum à son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. La date d'échéance arrive même en cette fin de semaine. Et au regard du déploiement des sous-marins américains, ce matin, le Kremlin qualifie cette visite, je cite, « d'importante et utile ». La guerre civile continue au Soudan. Au moins 14 civils ont été tués dans l'ouest du pays par les paramilitaires qui sont en guerre contre l'armée soudanaise. Selon l'ONG Emergency Lawyers, ces civils ont été abattus alors qu'ils tentaient de fuir la ville assiégée d'El Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord. Cette guerre est entrée dans sa 3e année. Jusqu'à ce jour, elle a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. L'ONU décrit ce conflit comme étant, je cite, « la pire crise humanitaire au monde ». L'affaire de la cité Aldrin à Sierre avait défrayé la chronique. Au début de l'année, la police valaisanne avait annoncé avoir démantelé, dans des tours datant des années 70, un réseau de trafic de drogue de grande ampleur, calqué sur le modèle des banlieues françaises au cœur du Valais. Raphaël Poncioni, vous suivez le procès d'un des principaux prévenus.
Et le jeune homme qui comparaît ce matin devant le tribunal de Sierre serait l'une des 2 têtes pensantes, selon l'acte d'accusation, d'un réseau organisé au cœur de la cité Aldrin entre 2020 et 2023, impliquant une 30aine de personnes, dont une moitié de mineurs, guetteurs, transporteurs, vendeurs. L'acte d'accusation porte sur ce prévenu, gros consommateur de cannabis, d'avoir essentiellement organisé un trafic de hashish, 540 kilos, soit une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais aussi des tentatives d'extorsion, chantage, parfois contrainte aggravée, complicité d'extorsion aggravée, soit des menaces, violences pour récupérer l'argent de la drogue. Un trafic estimé à près de 3 millions et un bénéfice de 540 000 francs. Auditionné, le jeune homme d'une 20aine d'années confirme avoir organisé la vente de hashish, mais la moitié de ce qui est reproché, de n'avoir finalement gagné qu'environ 40 000 francs de bénéfices. Pour tout ce qui est charge et chantage d'extorsion, il nie tout en bloc et dit que tout le monde le charge à tort. Dans son réquisitoire, le procureur n'a pas mâché ses mots face à celui décrit comme le caïd de la cité aux multiples condamnations pénales, qui nie des faits confirmés par de nombreuses preuves et témoignages. Il demande 4 ans de prison, sans sursis et l'expulsion judiciaire de 7 ans pour ce Tunisien multirécidiviste du territoire helvétique. Son défenseur, Jean-Luc Adore, veut suivre les arguments de son client qui nie en partie les faits, qu'il n'a pas participé au tabassage. Il demande la clémence des juges sans expulsion.
Merci Raphaël. Et du football maintenant avec Thomas Eberli qui était limogé de son poste d'entraîneur du Servette, un poste qu'il occupait depuis juin de l'année dernière. Le technicien de 51 ans paye ainsi le mauvais début de saison du club genevois puisque Servette a en effet perdu ses 2 premiers matchs de Super League et a également échoué au 2e tour qualificatif de la Ligue des Champions. La météo, eh bien aujourd'hui le ciel devrait être généralement ensoleillé avec surtout ce matin des passages nuageux élevés parfois denses. Pour ce qui est des températures en pleine et au meilleur de la journée, le thermomètre indiquera 23 degrés sur le plateau et 26 degrés en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Ici Sébastien Pache. Les festivals de l'été s'expriment tous les soirs sur RTS Espace 2. Or, ce mercredi, c'est depuis les Bouches-du-Rhône qu'ils le feront. Je vous invite à l'écoute d'un concert donné il y a quelques jours à peine dans le cadre du festival de piano de la Roque d'Anteron. Au programme, le russe Nikolai Luganski dans la sonate opus 31 numéro 2 de Beethoven, dite « La Tempête », Schumann, Liszt et une poignée de transcriptions tirées des opéras de Richard Wagner. Un concert à revivre à l'antenne ce mercredi à 19h30 sur RTS Espace 2.
Les références, Julian Sykes.
Cette semaine, on va évoquer le souvenir d'un grand chef autrichien, Nikolaus Harnoncourt.
Das muss wirklich nach der alten Paukerkunst gespielt werden. Das ist ja wang, badada, nicht viel lauter, aber nur mit mehr Rückgrat. 3 und wang. Ja, bang. Da möchte ich bei irgendwen die Gedärme sehen, dass der Bauch platzt.
Entendez cette pugnacité du chef Nikolaus Harnoncourt qui demande à ses musiciens de jouer avec leurs tripes, avec des sonorités drues et des accents rythmiques bien marqués, presque scandés comme dans une rhétorique ou un exercice de rhétorique. Harnoncourt, avec son ensemble sur instruments d'époque, le Concertus Musicus de Vienne dans la 39e symphonie de Mozart. Une série de 5 émissions cette semaine pour découvrir son legs discographique. Bienvenue dans les références.
Thank you.
Le premier mouvement de la 39e symphonie de Mozart par Nikolaus Arnoncourt et le Concertus Musicus de Vienne. C'était ici son dernier enregistrement de l'année 2013 au Musikverein de Vienne. Arnoncourt, un chef habité, un dramaturge de la musique, ses yeux globuleux, parfois exorbités, ses gestes pas toujours très ordonnés qui tranchaient avec l'élégance d'un abado ou d'un mouti, sa façon de réviser les classiques pour les montrer sous un autre jour, sous une autre lumière. Nikolaus Arnoncourt a secoué le cocotier de la musique classique, si j'ose dire. Il a bousculé les idées reçues. On l'a vu d'abord comme un ardent défenseur des instruments d'époque, une sorte de pourfendeur des orchestres traditionnels. Puis, il s'est mis à diriger lui-même des grands orchestres comme le Philharmonique de Vienne ou le Concertgebouw d'Amsterdam. Il n'était pas contre les orchestres modernes, il était contre les innombrables traditions héritées du passé. Il a revu Bach, Mozart, Beethoven, Schumann à la lueur des instruments d'époque. À sa mort, en mars 2016, ce fut un choc, un vide béant. Arnoncourt avait tellement marqué son époque que de nombreux musiciens s'exprimèrent sur les réseaux sociaux. Avec la disparition de Nikolaus Arnoncourt, nous perdons un guide précieux et l'un des musiciens les plus intransigeants et inspirants du siècle, avait écrit Renaud Capuçon. Disparition d'autant plus marquante qu'Arnoncourt avait une tonicité, une énergie incroyable.
Thank you.
Johann Sebastian Bach, le début de la première cantate dans l'Oratorio de Noël par Nikolaus Harnoncourt, le chœur Arnold Schönberg et le Concertus Musicus de Vienne. Il y avait cette poigne chez Harnoncourt, extraordinaire pour certains répertoires, parfois un peu excessive. Ça pouvait donner des interprétations dures aux angles saillants. Il détestait à vrai dire qu'on amollisse la musique. Et s'il a quitté l'orchestre symphonique de Vienne, où il fut violoncelliste pendant 17 ans, au début de sa carrière, c'est parce qu'il en avait assez de jouer sous la direction de chefs qui aplanissaient les contrastes chez Mozart et faisaient de la 40e symphonie en sol mineur une sérénade gentillette et mignonne. Là, je cite ses propres mots. Mais pour cerner la personnalité d'Harnoncourt, je vous propose qu'on écoute un musicien qu'il a bien connu, Luca Pianca. Luca Pianca, un luthiste, il a étudié auprès d'Harnoncourt au Mozarteum de Salzbourg et il a été membre du Concertus Musicus de Vienne, l'orchestre d'Harnoncourt, pendant de longues années. D'ailleurs, Luca Pianca a ensuite fait partie de l'ensemble Il Giardino Armonico, qui est très connu pour la musique baroque. Luca Pianca rendait hommage à Harnoncourt au lendemain de sa mort, en mars 2016, au micro de Sérène Regard sur Espace 2.
Je pense que Harnoncourt, il a travaillé sur plusieurs plans. Il a travaillé sur le plan du son, évidemment, par sa recherche. Il a travaillé sur le plan de la phraséologie, de l'articulation. Enfin, c'était un travail plutôt global, si on veut bien, un travail très complet sur l'alphabet musical en général, que ce soit au niveau du son ou au niveau du langage proprement dit. Moi, je pense que sans rien enlever aux grands chefs du XXe siècle, naturellement au Walter, au Furtwängler, au Karajan, etc. Je pense qu'il y a eu deux figures fondamentales au XXe siècle au niveau de la direction d'orchestre. Et ça a été, dans la première moitié du siècle, Arturo Toscanini, et dans la deuxième moitié du siècle, Nicolas Harnoncourt. Car les deux ont en commun ceci, qu'ils ont véritablement changé des habitudes d'écoute de la musique. Il y a un avant et un après Toscanini, il y a un avant et un après Harnoncourt.
Luca Pianca, vous nous parlez d'un travail complet sur le son, sur le langage également. Alors quand on veut s'approcher le plus intelligemment possible de la manière historique de jouer de la musique, ça signifie, en tout cas pour Nicolas Harnoncourt, de remettre en question un bon siècle d'interprétation romantique. C'est aussi retrouver les instruments ou même les faire reconstruire. Ça, c'était également quelque chose, une démarche d'Harnoncourt qui allait beaucoup plus loin que la simple exécution musicale.
Absolument, oui. Je crois que Harnoncourt a même fait reconstruire pour la première fois quelques instruments comme l'oboe da caccia, par exemple, qui était complètement disparu. C'est sur des propositions d'Harnoncourt à des constructeurs que cet instrument a retrouvé la vie. Donc il s'agit d'une espèce de hautbois ténor, pour être clair, qui a une forme un peu différente de celle de l'hautbois. Ce n'est pas un instrument droit, mais c'est un instrument courbé avec un pavillon. Enfin, c'est un instrument assez intéressant, en fait, qui opère dans le registre de ténor. Bach le cite très souvent, par exemple. Bach utilise toute une série d'instruments qui sont apparemment disparus de la circulation. Mais Harnoncourt a aidé aussi à la reconstruction de ce genre d'instrument, quoi, oui.
Restez-moi fidèle, ce sont les derniers mots de Nicolas Harnoncourt adressés à son ensemble, Concertus Musicus. Luca Pianca, vous qui avez connu le maître durant plusieurs décennies, cette fidélité, comment est-ce que vous l'imaginez ?
Voilà, ça c'est une très bonne question, parce que je pense que être fidèle à Harnoncourt, travailler dans le nom de Harnoncourt, signifie justement essayer de faire comme il a fait. C'est-à-dire d'être un esprit libre qui n'est pas forcément sujet aux lois bizarres et parfois un peu idiotes du marché. Rester libre, chercher, présenter des choses qui ont passé par l'expérimentation, ça c'est sûr. Et ça, je crois que c'est la meilleure façon de travailler dans le nom de Harnoncourt. Thank you.
Johann Sebastian Bach, un air tiré de la Passion selon Saint Jean, avec une instrumentation qui met en valeur une flûte traversière et le oboe da caccia, le hautbois de chasse dont parlait tout à l'heure Luca Pianca. C'était la voix d'Angela Maria Blasi avec Arnon Cours et les membres du Consensus Musicus de Vienne. Luca Pianca, qui a fait d'ailleurs partie de cet enregistrement à Vienne en 1993. C'est une longue histoire que celle d'Arnon Cours, né en 1929 à Berlin, descendant d'une famille d'aristocrates de la lignée des Habsbourg. Nikolaus Arnon Cours a longtemps été violoncelliste au sein de l'Orchestre Symphonique de Vienne, où il a joué sous la direction de fameux chefs de l'époque. On pourrait citer Karl Böhm, Joseph Krips, Bruno Walter, Hermann Scherchen ou encore le jeune Herbert von Karajan, qui était à l'époque le directeur musical de l'orchestre. Tout ça se passe dans les années 50. Il est exposé à toutes sortes de musiques, y compris des créations contemporaines, mais il commence à se poser des questions sur le style musical. Il constate que la musique instrumentale de l'époque de Corelli et Bach est jouée de la manière la plus neutre et objective possible. Mozart, lui, est joué sans vrai contraste dynamique et dans une sorte de legato général. Forte était joué mezzo forte et piano aussi mezzo forte. Aucune notion de sforzato ou des forte piano qui sont des indications extrêmement précises chez Mozart. Mais là, ça commence à devenir très spécialisé, j'en conviens. Quoi qu'il en soit, selon Arnon Cours, les chefs de l'époque privilégiaient la continuité du discours musical au détriment de la dialectique, qui est au centre de ses recherches. Et l'on se rend compte que la musique du XVIIIe siècle est fondée elle-même sur des gestes rhétoriques. Tout cela, il l'a résumé dans un livre qui s'appelle « Le discours musical ». Quoi qu'il en soit, Arnon Cours commence à organiser des répétitions de musique ancienne, chez lui, dans son appartement à Vienne, avec des amis musiciens de l'Orchestre Symphonique de Vienne. Et parmi eux, il y a sa femme violoniste Alice Arnon Cours, qu'il a épousée en 1953. Il se dit que pour retrouver les sonorités d'époque, il faut retourner aux instruments d'époque, ou alors à des copies. Et c'est là que l'aventure du Consensus Musicus de Vienne va commencer, dans un esprit de pure expérimentation. Avec le temps, Arnon Cours n'est pas seulement violoncelliste ou gambiste, puisqu'il joue de la viole de gambe, mais il devient chef, par nécessité. On écoute le journaliste Bertrand d'Hermoncourt, qu'il a bien connu.
Lui, il était instrumentiste au départ, donc c'est un chef un peu contrarié, puisqu'il voulait pas être chef. Il a été chef parce que il n'était pas satisfait des interprétations qu'il subissait en tant qu'instrumentiste dans l'Orchestre Symphonique de Vienne, ça c'est la première étape. Ensuite, il est devenu chef, mais d'abord en fausse, et du violoncelle, ou de la viole de gambe, suivant les répertoires. Et puis il s'est rendu compte que, notamment pour diriger les chanteurs, c'était pas extraordinaire d'un point de vue technique, donc il est devenu chef par la force des choses. C'est une forme de pragmatisme, d'une certaine manière. Et puis là, il a commencé à diriger des œuvres plus variées en termes de répertoire, à partir du Consensus Musicus, donc l'ensemble qu'il avait formé au départ pour la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et puis il a, en même temps que sa carrière grandissait, il a fait grandir son répertoire. Et jusqu'à Mozart, et puis Beethoven, et puis il s'est posé la question de savoir si Mozart et Beethoven c'était facile à diriger avec le Consensus, et en fait sa première réponse était non. Il pensait que les instrumentistes n'étaient pas assez virtuoses, et il a préféré faire ce répertoire-là avec des orchestres constitués qui avaient déjà l'habitude, et une plus grande facilité à jouer ce répertoire en appliquant des principes qu'il avait appris, notamment de transparence sonore et de clarté des plans et de la polyphonie avec les instruments anciens, mais avec des instruments dits normaux. Après, il a changé d'avis, puisqu'à la fin de sa vie, après avoir enregistré une intégrale des symphonies de Beethoven avec le Chamber Orchestra of Europe, qui pratique des instruments normaux, je dis normaux, mais c'est des instruments qui ne sont pas anciens, des instruments modernes. Il avait, à la fin de sa vie, commencé une intégrale avec le Consensus. À la toute fin de sa vie, c'est ses derniers enregistrements et ses derniers concerts.
Thank you.
Le fameux premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven par Nikolaus Harnoncourt et le Concentus Musicus de Vienne, un enregistrement sur instrument d'époque qui date de mai 2015, un an avant la mort d'Harnoncourt. Alors là, on est dans la période pré-romantique avec Beethoven, mais Harnoncourt a eu toute une première période d'existence en tant que musicien, où il a enregistré de la musique baroque des 17e et 18e siècles. On peut citer Monteverdi, Bach, Handel, Vivaldi, et puis des musiciens au service de la cour des Habsbourg au XVIIe siècle, comme Fuchs ou encore Johann Heinrich Schmelzer. Voici un mouvement de sonate pour différents instruments à vent et cordes, signé Schmelzer donc, avec un caractère un peu festif, car elle a été écrite pour la période de Noël.